Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bienvenue à tous dans l'Amérique et vous, Eric Mandelakidza avec vous sur la voie de l'Amérique, mettant depuis Washington DC, Lionel Rudanilagahima sur la mise en onde. Et ce soir, nous parlons de la nouvelle approche américaine à nos militaires contre le terrorisme en Afrique. Washington a dévoilé lundi un document d'orientation qui annonce une refonte de sa politique en Afrique subsaharienne. Les États-Unis entendent contrer la présence russe et chinoise et développer notamment des approches non militaires contre le terrorisme. Cette nouvelle stratégie reconnaît l'importance démographique croissante de l'Afrique, son poids à l'ONU, tout comme ses immenses ressources naturelles et opportunités. Quel pourrait être l'effet de la nouvelle approche américaine dans la lutte contre le terrorisme en Afrique ? Nos invités sont en ligne avec nous pour en parler. À Paris, Nestor Uidada.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir, madame. Bienvenue sur VOA Afrique et dans la vie de vous, Eric Mandelakidza, en votre compagnie. Je déclare devant vous tous que ma vie entière, qu'elle soit longue ou courte, sera consacrée à votre service. Eh bien, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'engagement pris envers le Commonwealth par la princesse Elisabeth à 21 ans lors d'un discours à Dieu depuis le Caire en Afrique du Sud. Ce soir, nous parlons de la reine Elisabeth II. Lionel Nounanilagahima assure la mise en onde. Sa vie et son héritage, nous en parlons dans un instant avec nos invités. Ici à Washington, nous sommes en ligne avec Marlene Sefok, professeure à Howard University. Bonsoir.
Bonsoir.
À New York, nous retrouvons l'historien Mohamed Mbodge, professeur à Manhattan College. Bonsoir.
Bonsoir.
Le chagrin et le prix que nous payons pour l'amour s'affiche en une du Daily Telegraph qui reprend les propos qu'Elisabeth II avait adressés au peuple américain après les attentats du 11 septembre 2001 à New York. Marlene Sefok, vous vous rappelez sans doute de ce message.
Oui, c'était un message de solidarité envers le peuple américain. C'était un message aussi d'amour pour tous ceux qui ont souffert lors des attentats.
La reine était comme une mère pour tout le Royaume-Uni. L'ex-premier ministre Tony Blair l'avait même qualifiée de matriarche du pays. C'était très profond et significatif, Marlene Sefok.
Oui, en effet, elle était une véritable constante dans le paysage politique du Royaume-Uni. On a toujours l'impression que, quelles que soient les péripéties par lesquelles le Royaume-Uni passe ou passait, elle était la constante, elle était celle qui était là pour prononcer le discours qu'il fallait pour encourager son peuple. On se souvient, après la Seconde Guerre mondiale, comment elle a été vraiment très présente auprès du peuple britannique. Donc, il s'agissait de la matriarche, mais une véritable constante dans le paysage non seulement politique, mais culturel, social du Royaume-Uni.
Mohamed Mbodge, le monde s'associe au deuil des Britanniques après la mort d'Elisabeth II, une reine de cœur dont la dignité et le sens du devoir inaltérable ont suscité une pluie d'hommages unanimes.
Oui, tout à fait. Elle représentait une sorte de pérennité inébranlable, donc du caractère britannique qui a survécu, bien entendu, à bien des preuves, et en particulier la Deuxième Guerre mondiale, à l'humiliation d'être rétrogradée disons, derrière les États-Unis, etc., etc., dans les années 50, en termes de puissance militaire, économique et autres, de perdre ses colonies alors que peut-être elle aurait bien voulu les garder ou en tout cas en garder certaines encore pour un certain temps. La violence dans laquelle certaines de ces indépendances se sont produites, comme en Inde, par exemple, mais dans toutes ces épreuves et par la suite dans les années 60, l'engagement à entrer dans l'Union européenne, le marché commun à l'époque, comme on l'appelait, et en sortir, il y a une sorte de permanence de ce caractère, de ce mur, que d'ailleurs nous tous, nous avons pour nos mères, et elles sont là, elles ont un amour inconditionnel, flexible lorsqu'il s'agit de l'exprimer, mais toujours rigide, solide, pour nous protéger, pour nous mener donc de l'avant. Donc certainement, il avait ce caractère maternel qui faisait d'elle donc un objet d'amour, disons, pour la majorité de ses sujets.
Marilyn Sefolk, que gardez-vous de sa vie et de son héritage?
Son héritage est à la fois positif, mais il y a aussi quelques points, si vous voulez, qui le sont moins. C'est un personnage assez énigmatique parce qu'elle n'émettait pas d'opinion. Il n'y avait pas de sa part aucune phrase poussant ce peuple à une idéologie ou une autre. Donc il y avait cette espèce de mystère autour d'elle parce qu'elle n'aimait pas. Et c'était d'ailleurs, ça faisait partie de sa tâche de ne pas émettre d'opinion. Et donc quand elle se prononçait, ses discours étaient très vagues, très encourageants, très polis, une sorte de lexicographie qu'elle utilisait justement pour ou apaiser ou pour encourager. Il n'y avait jamais vraiment d'opinion bien ferme. Alors, elle émettait son opinion à travers, évidemment, ses vêtements. Par exemple, lors du Brexit, elle a porté un vêtement bleu avec des petits points jaune, ce qui représentait évidemment l'Union européenne. Donc cela montrait qu'elle avait des opinions, mais elle, mais sans doute parce que le Royaume-Uni aurait dû rester à l'intérieur de l'Europe. Donc c'était sa façon, par ses vêtements, de montrer son opinion. Je ne sais pas quelle était son opinion lors des événements de commémoration de Normandie, puisqu'elle portait du vert ce jour-là. Pour la petite anecdote, j'étais assise pas trop loin d'elle et nous étions les deux seuls à porter du vert. Donc la reine d'Angleterre, c'est un personnage assez énigmatique. Mais elle représente tout de même aussi le colonialisme. Elle représente le colonialisme, elle représente toute une ère qui s'en va petit à petit, qui s'effrite petit à petit, parce qu'on est là dans un système nouveau, voilà, où les colonies n'existent pas, ou existent moins, ou existent peu.
Mohamed Bod, la reine Elisabeth II avait fait des banalités un art, comme le dit Marilyn Sefolk, mais certaines de ses déclarations resteront dans l'histoire.
Oui, tout à fait. Donc, en particulier, cette fameuse déclaration où elle se met au service de sa nation plutôt que d'être à la tête de sa nation pour bien montrer que le temps était vraiment révolu ou c'était le roi ou la reine qui dirigeait le pays, mais que maintenant elle allait simplement accorder son violon avec ce que le premier ministre et le parti au pouvoir, au parlement, allaient décider. Et quitte à cacher ses sympathies, ce que d'ailleurs beaucoup de personnes lui reprocheront, lors de la crise irlandaise, lors de la grève de la faim dans les années 60 et 70, de certains meneur de la révolution irlandaise, elle n'a pas levé le petit doigt pour sauver donc ce qu'on peut appeler la paix sociale en Grande-Bretagne avec la grève des mineurs qui s'est terminée de manière très tragique. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui font que son engagement à suivre ce que le Premier ministre fait, une sorte de aller au-delà de la neutralité affichée. Et beaucoup lui ont reproché de ne pas avoir quelquefois mis son petit doigt sur la balance là où il y avait 50-50, disons en Grande-Bretagne, pour faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre, et elle a préféré plutôt laisser l'affrontement idéologique et même quelquefois une certaine violence politique, en particulier autour des grèves des mineurs, de charbon et autour de la question irlandaise, où il n'a vraiment pas fait grand-chose de ce point de vue-là. Maintenant, ses déclarations par rapport à l'Union européenne sont restées d'une certaine façon une sorte de d'épitaphe de ce que aurait pu être finalement ce que le Brexit a précipité, qui est la fin de cette coopération, de cette collaboration, de cette insertion dans l'Union européenne. Et peut-être que dans le futur, si la Grande-Bretagne va essayer de réintégrer l'Union européenne, donc on va utiliser ses discours, on va utiliser ses adresses un tout petit peu pour légitimer, pour dire que c'était une erreur, que peut-être de sortir et que maintenant on va un peu s'accorder pour suivre la sagesse de la vieille dame qui aurait bien voulu que la Grande-Bretagne restât dans l'Union européenne. Mais disons que d'une certaine façon, tous ces discours qu'elle a faits souvent sont restés un tout petit peu dans le cadre strict de cette séparation de pouvoir où elle était subalterne par rapport au Premier ministre.
Marlene Seffolk, quels sont les grands moments du règne d'Elisabeth II que vous retenez, vous, personnellement?
Oh ben, il y a d'abord que son règne lui-même, le début de son règne surtout, qui a démarré quand elle avait la vingtaine, elle avait 25 ans, si je ne m'abuse. Et il y a aussi, donc, à l'époque, l'Europe venait de passer par un cap qui était vraiment très sinistre, la Seconde Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, vous avez cette jeune reine qui représente une sorte de renouveau, de fraîcheur, de renaissance de l'Europe. Et donc, à ce moment-là, elle a joué un rôle très positif. Et il faut aussi se rappeler son rôle avant même qu'elle soit reine, où pendant la seconde, après la Seconde Guerre mondiale, elle s'est mise au travail, elle et sa sœur, et elles étaient carrément au milieu des ruines en train d'essayer de motiver le peuple britannique. Il y a aussi des moments qui n'étaient pas très à sa gloire, juste comme par exemple après la mort de Diana. Les Européens en général, mais surtout les Britanniques, lui ont reproché une certaine froideur dans ces moments-là. Puisque Diana était véritablement la reine du cœur, si vous voulez, des Britanniques. Il y a aussi le moment de Brexit, comme je le disais, elle n'a pas montré elle a montré sa désapprobation à travers ses vêtements, mais il y a aussi des moments qui sont pas très à sa gloire, comme par exemple durant la grève des mineurs, comme l'a dit le professeur Bosch. Donc il y a, son record, son bilan est très mitigé, voilà. C'est un personnage très énigmatique, il y a beaucoup de choses qu'on lui attribue, mais en fait ils ne sont pas tout à fait d'elle. Elle a présenté plus de 100 000, je crois, discours, elle a prononcé énormément de discours, qu'elle n'a jamais écrit d'ailleurs. Elle a visité plus d'une centaine de pays sans jamais avoir un passeport d'ailleurs, sans jamais présenter son passeport aux frontières, puisqu'on n'exige pas de la reine qu'elle présente son passeport.
Mohamed Bodj, vous en avez parlé, mais de la mort de son époux, le prince Philippe, aux accusations de racisme par le prince Harry et son épouse Meghan, la reine Elisabeth II a connu durant son règne record plusieurs crises et épreuves qui ont ébranlé la monarchie britannique.
Oui, vous mentionnez le racisme. Je crois que l'accusation de racisme contre le prince Philippe ou même la reine, c'est plus une sorte de racisme par inadvertance, en utilisant un vocabulaire désuet qui n'est plus de mise pour l'instant, sans être forcément un racisme, disons, actif. Mais il est certain que dans la famille royale britannique, il y a une tradition de racisme, de fascisme et même de certains membres qui sont foncièrement ultra-droite. Et Elisabeth ne s'est jamais prononcée, n'a jamais tranché, ne s'est jamais séparée donc de cette partie de sa famille, donc de ses cousins. On se souvient du frère de son père qui était franchement pro-nazi, donc en quelque sorte, eh bien, elle a gardé toutes ses brebis galeuses de la famille royale en quelque sorte, évidemment en sorte de matriarche qui voulait rassembler tous les membres de la famille royale dans une sorte d'égale dignité, mais il est évident que pour nous qui jugeons, disons, après coup, nous pensons qu'elle aurait dû manifester une plus grande personnalité, une approche plus ferme sur ces questions. Lorsqu'il s'agit, par exemple, de boycotter l'Afrique du Sud, de condamner l'apartheid, elle n'est pas montée au front, elle n'a pas été donc une sorte de vigie morale qui aurait vraiment mobilisé, disons, l'opinion publique britannique qui était très âgée sur ces questions-là. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on peut lui reprocher et je crois que ma collègue vient de dire qu'en fait c'est peut-être qu'elle manque un tout petit peu de fermeté ou même de caractère, ce qui fait que la personnalité forte de son époux, qui est un officier de l'armée et qui est un émigré en quelque sorte, si on peut parler ainsi, même si c'est un émigré royal, donc lui faisait de l'ombrage et on peut penser que beaucoup de ses décisions, elle se confiait, elle se cachait et peut-être c'était plus Philippe qui se manifestait à travers elle qu'elle-même avait une idée très nette de ce qu'elle disait ou de ce qu'elle faisait et donc son rôle subalterne par rapport au Premier ministre donc a achevé de faire en quelque sorte que ce qu'on peut penser de son héritage, les historiens vont fouiller les discours, vont regarder les attitudes et même le mode vestimentaire et je crois que l'impact d'Elisabeth II va être beaucoup moindre que nous le pensons maintenant. Dans une dizaine d'années, je pense que beaucoup de choses qu'elle représente vont disparaître et vont même être jugées de façon négative.
Marlene Sefocle, lorsque Elisabeth II accède au trône aux États-Unis, c'est le président Henry Truman qui occupait la Maison Blanche. Il y a eu 12 présidents des États-Unis qui se sont succédés. Et chaque président américain qui se déplace à Londres allait voir la reine. C'était un passage obligé pour partager un thé. Est-ce que ça a un sens bien précis, spécifique?
Ce passage obligatoire chez la reine pour partager le thé avec elle, je pense que cela a, si vous voulez, un sens, une espèce de préservation de certains mondes anciens, de l'ancien monde que les Américains ont tenu à préserver. Tout cela fait partie, si vous voulez, et même le fait qu'on parle de la reine, qu'elle soit autant médiatisée, beaucoup plus médiatisée que par exemple le roi du Lesotho, le roi du Swaziland, etc. Je pense que tout cela, c'est une sorte de grosse mécanique de communication qui est en marche et qui veut préserver un certain monde suprémaciste blanc, si vous voulez. Je ne veux pas voir en le thé en lui-même une sorte de suprématie blanche, mais si vous voulez, toute cette comme autour de ces personnages, c'est une véritable volonté de ne pas vouloir admettre qu'il y a ce monde ancien, suprémaciste, blanc, colonial qui s'effondre. Donc c'est une volonté, si vous voulez, de sauvegarder et de montrer au monde que cette monarchie a encore du poids, a encore une importance, si vous voulez. Toute cette communication, tous ces médias autour de la reine, si vous voulez, c'est un petit peu comme l'arbre qui tombe dans la forêt et que personne n'entend. Les médias, si vous voulez, contribuent à cette mystique autour de la reine. Ça risque de continuer si plus les médias en parlent et plus il y a cette mystique autour d'eux. Plus on leur donne de l'importance, et plus ils ont eux-mêmes de l'importance. Et ça, c'est fondamental.
Mohamed Mbodj, c'est au Kenya que la vie d'Elisabeth a basculé. C'est dans cette colonie britannique qu'une princesse est devenue reine.
Oui, donc elle était venue admirer les animaux. D'ailleurs, il y a une sorte d'évolution dans la monarchie britannique où, au fond, les gens de sa génération aimaient l'Afrique parce le côté sauvage, entre guillemets, de l'Afrique, étrange de l'Afrique, et donc le spectacle qu'offrait l'Afrique, le dépaysement. Évidemment, son successeur Charles s'intéresse vraiment à l'Afrique pour des questions de réchauffement climatique. préservation des styles architecturaux africains traditionnels, etc. et autres. Et bien entendu, Princesse Diana et ses enfants, et en particulier le futur roi William, donc sont plutôt intéressés par des campagnes de vaccination, etc. Donc, et d'ailleurs, la médiatisation de ces visites en Afrique participe un tout petit peu aussi de cette publicité dont ma collègue a parlé tout à l'heure. Donc, c'est certainement le premier personnage de notre époque à être médiatisé et à faire l'objet de ce qu'on peut appeler un culte télévisuel. On se rappelle que son couronnement a été le premier événement diffusé à travers le monde sur la télévision. Donc, elle a été la première à être de façon autonome et directe le centre de l'attention dans des programmes audiovisuels, surtout lors de ses visites en Afrique qui étaient hautes en couleur et qui donc participaient un peu donc de cette publicité autour de cette couronne et de cette pratique de la monarchie britannique qui visitait ces sujets de temps à autre et leur apportait la bonne parole de la civilisation. Et maintenant qu'elle ait reçu donc la nouvelle du décès de son père et de son ascension comme reine de la Grande-Bretagne en Afrique même, est aussi un symbole en quelque sorte de ce qu'était la Grande-Bretagne à l'époque, c'est-à-dire une puissance impériale mondiale, un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais, comme on disait à l'époque, et qui était un peu une sorte de clin d'œil, parce que dans les années 50, la Grande-Bretagne était visiblement à la traîne par rapport à l'Union soviétique ou par rapport aux États-Unis, et en quelque sorte, pour redorer le blason de ce pays et de sa royauté, donc cette projection dans ces contrées lointaines de la civilisation européenne, de cette mission civilisatrice, faisait donc une sorte de bonne publicité pour la Grande-Bretagne lorsqu'elle n'était pas capable de gagner le combat industriel, militaire ou politique contre ses grands concurrents.
Je m'efforcerai d'être digne de votre confiance tout au long de ma vie et avec tout mon cœur. Promesse faite par la jeune reine Elisabeth II lors d'une émission radio marquant son couronnement en 1953. Marlene Sefocle, est-ce qu'elle aura tenu sa promesse?
Oui, vis-à-vis de son peuple, oui, elle a tenu sa promesse, elle a été très digne, elle avait son propre agenda qu'elle suivait de façon rigoureuse. Donc on connaît tous les charités, les œuvres de charité auxquelles elle a porté beaucoup d'attention. Donc elle a été la reine qu'elle voulait être pour son peuple. Pour ajouter à ce que je disais mon collègue, professeur Notch, je dirais qu'elle a tenu aussi à ce que, comme le collègue parlait de cette espèce de projection de pouvoir dans cet empire britannique, chaque membre de la famille britannique a le devoir, on parlait du Kenya, a le devoir d'apprendre le Swahili. Ne serait-ce que pour avoir une conversation assez élémentaire. Donc, elle parlait le Swahili, et son fils Charles et son petit-fils aussi, William, tous ils ont appris le Swahili. C'était leur façon de communiquer, si vous voulez, avec les Kenyans. C'est une famille, en fait, on parle de cette famille britannique, mais qui est en fait une famille allemande, puisqu'il s'agit des Saxe-Cobourg, qui ont changé leur nom en Windsor pour faire un peu plus britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a aussi cet aspect chez eux, ces familles royales européennes. Ces familles royales européennes épousaient des princes allemands, des princes de différentes nationalités. Dans leur cas, il s'agit bien d'une famille allemande, puisque la reine Victoria, son arrière-grand-mère, avait épousé le prince allemand.
Mohamed Bodje, est-ce qu'elle aura tenu sa promesse?
Une promesse facile à tenir en quelque sorte, parce qu'au fond, qui lui avait confié le pouvoir, disons, avec confiance? Il y a des règles successorales qui ont fait qu'elle était donc devenue la reine. En fait, je pense qu'elle faisait plutôt allusion au fait qu'elle était femme et le fait que Avant elle, on a eu Elisabeth Ier, on a eu donc Victoria. Il y avait toujours une sorte de scepticisme par rapport à ce qu'une femme pouvait accomplir à la tête d'une grande puissance mondiale. C'est comme ça personnellement que je l'interprète pour mes étudiants. Donc on a parlé en fait de ce fameux discours dans mon cours hier, qui était un cours sur mettre l'histoire sur scène et comment certains acteurs historiques comme Elisabeth étaient un qui peut en train de jouer un rôle, et dans ce cadre-là, le fait qu'elle dise qu'elle devait mériter la confiance des gens, mais elle n'était